Donc, remettons cette soirée entre les mains de Dieu et réclamons sa présence parmi nous aussi pour nous toucher, nous restaurer, nous aussi. C'est merci pour cette promesse de restauration, et non seulement la promesse, mais la réalité. Et Seigneur, tu as fait déjà de grandes choses dans nos vies, dans nos cœurs. Et Seigneur, tu n'as pas terminé ton œuvre dans nos vies. Donc Seigneur, nous voulons te donner toute la place pour que tu puisses poursuivre davantage cette œuvre de restauration dans chacun de nos cœurs. Accompagne-nous tout au long de la soirée, au nom de Jésus. Amen. Donc, quand nous pensons à notre projet, à nous, prochaine diapo, il y a certains facteurs qui influencent le projet de Dieu pour notre vie qui sont un peu en dehors de notre contrôle. Donc, on peut parler de notre ADN, n'est-ce pas? C'est pas nous qui avons choisi notre ADN, c'est finalement nos parents et Dieu, finalement, dans son œuvre merveilleuse justement de nous créer, nous fabriquer, nous façonner. Notre arrière-plan familial, surtout l'encadrement et l'amour, prochaine diapo, de nos parents. Donc, finalement, ce n'est pas nous qui avons choisi le contexte familial dans lequel nous avons grandi, n'est-ce pas? Et peut-être ça a été un encadrement d'amour, d'affirmation, mais peut-être ça a été le contraire. Et nous avons subi certaines, peut-être, conséquences par rapport à ça, peut-être positives et négatives. Donc voilà, mon éducation, troisième. Donc, peut-être vous avez eu accès à une bonne éducation, vous étiez bien encadré, vous avez connu un contexte d'école qui était très favorable à votre croissance, à votre encadrement d'église, la stabilité émotionnelle de vos années formatives. Donc, toutes ces choses-là, ce n'est pas forcément des choses que nous pouvons contrôler, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous qui avons choisi le milieu dans lequel on a grandi, ni on n'a pas, c'est pas nous qui avons orchestré ces facteurs ici-là. Mais voilà que ça contribue quand même à notre développement. Des fois, notre sous-développement et des fois notre développement. Donc, il y a d'autres facteurs, par exemple, que nous pouvons contrôler un peu plus. Donc, la présence, l'œuvre de Dieu et l'appel de Dieu sur notre vie, donc ça c'est un peu partagé, c'est parce que Dieu se révèle à nous, mais on a quand même besoin de répondre à son appel, n'est-ce pas? Parce que notre Dieu, on peut dire, notre Dieu est un gentleman, hein? Il ne forcera pas la porte, il va cogner la porte, mais il ne défoncera pas la porte pour se révéler à nous et pour faire son œuvre dans notre vie. Donc on a quand même des choix, mais mes choix, mes habitudes, et les voies neurones qui sont tracées, prochaine dans mon cœur. Donc, peut-être on a fait des choix jeunes qui nous ont, disons, guidés dans une certaine direction qui n'est peut-être pas bonne pour nous. Voilà, et on a développé certaines faiblesses à cause de ces voies neurones-là qui ont été malmenées dans notre vie. Ma réponse aux différentes réalités, expériences de ma vie. Donc, nous ne pouvons pas contrôler beaucoup d'expériences, mais nous pouvons contrôler la façon que nous réagissons à ces expériences-là. Et on voit l'exemple de Joseph qui va nous inspirer un peu là-dedans. C'est qu'il a vécu des injustices, il a vécu de la violence, mais la façon qu'il a répondu à ces expériences-là a vraiment orienté toute sa vie et a permis à Joseph de voir le projet de sa vie se réaliser. Dernier point, mon développement et maturation spirituelle, émotionnelle et interpersonnelle. Donc, nous jouons quand même un rôle là-dedans. Est-ce que nous choisissons de demeurer à un certain niveau d'immaturité dans notre vie? Souvent, on peut choisir de plafonner notre vie, d'arrêter de grandir, d'arrêter de faire des pas en avant, de peut-être sur le plan émotionnel, de ne pas régler, de ne pas visiter nos blessures d'enfance ou nos carences émotives, affectives, de laisser des choses comme ça, puis prendre de plus en plus de place. Donc, on peut alimenter l'amertume ou la colère et ça peut avoir des effets néfastes sur notre vie. Mais aussi sur le plan interpersonnel, on peut développer aussi des pratiques ou des façons de nous comporter dans nos relations interpersonnelles qui sont très néfastes pour nous et pour les autres. Donc, c'est des choses que nous pouvons gérer, contrôler, qui exercent une influence sur si oui ou non on va voir notre projet de vie vraiment s'accomplir. Donc, ce n'est pas un projet de vie qui tombe du ciel. Oui, ça tombe du ciel, ça vient de Dieu. Mais il faut bâtir ce projet de vie que Dieu nous confie. Il faut collaborer avec Dieu dans ce projet de vie qu'il a pour nous. Et voilà ce qu'on regarde un peu ce soir. Puis, une dimension de cette collaboration-là est justement de choisir le chemin de restauration que nous allons voir davantage ce soir. Donc, nous sommes créés pour de bonnes œuvres. Vous connaissez bien le passage. C'est ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. J'aime beaucoup même la façon que le français courant, le Semeur, la Bible du Semeur, traduit ce « nous sommes son ouvrage ». Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. C'est lui qui nous a créés. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions et nous les pratiquions. Vous connaissez bien le verset, Éphésiens 2:10. Donc, Dieu est en train de... Il est à l'œuvre et notre Dieu est créatif. Il est capable de travailler sur plusieurs champs en même temps, et ce qu'il fait d'ailleurs. Donc, il y a deux champs de travail dans nos vies, deux champs importants. Le premier travail, c'est le travail de nos cœurs, notre sanctification, notre guérison, notre restauration. Il nous travaille, là, il nous façonne. Il est à l'œuvre dans nos vies, il nous prépare pour des bonnes œuvres, et il prépare des bonnes œuvres pour nous. Donc, qu'est-ce qui est plus difficile pour Dieu? Préparer des œuvres pour nous ou nous préparer pour les bonnes œuvres? Je pense que nous sommes plus difficiles que les œuvres. Je pense que oui, là. N'est-ce pas? Et nous résistons à cette œuvre de nos vies. Il est en train de nous préparer, nous façonner, nous guérir, nous sanctifier. Mais il ne forcera pas la porte. Il ne fera pas de nous les personnes qu'il veut qu'on soit sans notre collaboration, sans notre participation là-dedans. Donc, il prépare des œuvres pour nous, il nous prépare pour des bonnes œuvres. Donc, comment pouvons-nous être bien préparés pour les œuvres que Dieu prépare pour nous? Voilà ce qu'on va voir un peu ce soir. Mais il faut prendre le chemin de la restauration. Donc, et ça prend vraiment trois engagements de base pour prendre ce chemin de restauration. On va regarder ça de façon plus pratique aussi ce soir. La première étape dans ce chemin de restauration-là, c'est vraiment un regard honnête et attentif sur notre passé. Donc, il faut dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai reçu de toi? Et comment gérer ce qui m'est arrivé là? Des bonnes choses et des moins bonnes choses. Donc, ça prend vraiment un regard honnête et attentif sur notre passé. Deuxième, un engagement à peser le poids affectif et spirituel de nos expériences d'enfance ou antécédentes. Peut-être certaines expériences d'adolescence aussi, ou de jeunes adultes qui nous marquent profondément. Donc, quel est le poids de nos expériences sur le plan affectif et spirituel? On va regarder certaines choses dans la vie de Joseph aussi. Et troisième, là où on trouve des déficits et des coins sombres, entreprendre un travail de pardon et de guérison. Donc, c'est un cheminement que Dieu nous invite à prendre. Un regard honnête et attentif, un engagement à peser le poids affectif spirituel de nos expériences. Et quand on trouve des déficits ou des manquements, des coins sombres, entreprendre justement le travail de pardon et de guérison. Donc, c'est du travail là. Comme en bon québécois, on dit, il faut passer au car wash. T'sais? Il y a du travail à faire pour justement entreprendre ce chemin de restauration. Donc, passons un petit peu à tout ce que Joseph devait affronter là, par rapport à son passé à lui. on voit que, premièrement, quand on regarde la vie de Joseph, qu'il faut avouer, dans les premiers chapitres, on va regarder un petit peu le contexte encore de son enfance, qu'il y avait un certain manque de maturité dans la vie de Joseph, là. Il faut l'avouer, hein. Quand il est en train de parler contre ses frères et de se vanter peut-être un petit peu de ses rêves. Donc, c'est vrai qu'il y avait un certain manque de maturité dans la vie de Joseph. Mais quand moi, j'avais 17 ans, là, moi aussi, je manquais de maturité, là, comme vous tous, d'ailleurs, n'est-ce pas? Et je me souviens très bien, j'étais beaucoup animé de justice propre quand j'étais adolescent. J'avais donné ma vie au Seigneur, j'étais tout feu, tout flamme, puis ma sœur était en pleine rébellion contre Dieu. Et je ne manquais pas mes occasions là, pour forcer la note avec elle. Là, je me souviens très bien. Et je disais des choses vraies, mais je manquais de beaucoup de sagesse avec elle. Puis un jour, là, elle a sauté. Puis elle m'a vraiment, disons, me fait part de sa frustration avec moi. Donc, le manque de maturité dans la vie de Joseph. Mais le manque de maturité dans la vie de Joseph n'était pas la cause de ses problèmes. Ses frères ne pouvaient pas dire, mais voilà, ils ne pouvaient pas justifier leur haine à cause de ce manque de maturité de Joseph. Ce n'était pas une cause de leur haine et de leur mépris qu'ils avaient envers lui. Mais il y avait aussi une deuxième chose qu'on voit dans la vie de Joseph. Il y avait le favoritisme et le péché générationnel. On va regarder ces choses plus en profondeur dans quelques instants. Il y avait l'envie et la haine de la part de ses frères, ou la jalousie ou l'envie. Il y avait le traumatisme de ce rejet de violence et de trahison lorsqu'il a été vendu, jeté dans le puits et vendu aux Madianites. Il y avait aussi la rupture sur le plan relationnel et de longues années de solitude et d'affliction qu'il a vécu en Égypte. Puis on voit, dans certains passages bibliques aussi, on voit que jusqu'à quel point Joseph a quand même souffert. Même si la main de Dieu était avec lui, il a quand même souffert de cette rupture et de cette rupture relationnelle dans sa vie. Donc, regardons le contexte familial de Joseph, le manque de maturité. Donc, on voit, on ne passait pas beaucoup de temps là-dessus, là, mais le verset est là devant vous. Ses frères, il avait passé son enfance avec les filles de Bilha et de Zilpa, femmes de son père, et rapportait à leur père le mauvais propos. Pas une bonne idée, là. Tu sais, là, d'être commère, puis de parler contre tes frères et tes sœurs, là, tu sais. C'est jamais une bonne idée, là, quand tu es enfant. Mais je sais que mes petits-enfants sont très experts là-dedans. Et donc, il ne savait pas peser ses mots. Beaucoup de justice propre dans sa vie. Donc, avec ses rêves, il les racontait à ses frères. Et je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas vraiment est-ce qu'il le faisait avec un ton supérieur. Vous allez voir, mes frères, un jour, je serai plus grand que vous, là. Est-ce qu'il avait ce ton-là dans ses propos? Je ne crois pas. Mais les frères étaient vraiment là, disposés contre lui, là, tu sais. Et donc, on voit qu'il manquait de maturité. Deuxième chose, c'était vraiment le favoritisme, on peut avancer, et le péché, ce qu'on appelle le péché générationnel dans sa famille. Et ça va peut-être toucher certains parmi vous, là. Donc, ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors, ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. C'est ça la haine, hein? Quand la haine prend racine dans nos cœurs, nos paroles sont affectées, là. Quand la haine est là, beau essayer de bien parler, là, mais la haine va toujours nous jouer un tour, là, tu sais. Ça va sortir dans le ton de voix, ça va sortir dans notre façon de parler ou dans les mots qu'on choisit. La haine va toujours tromper, va toujours avoir le dessus sur notre bonne volonté. Donc, il ne pouvait même plus lui parler aimablement. Mais le péché générationnel, c'était quoi? C'était le Jacob qui le préférait à eux. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Jacob, quand on regarde son histoire, lui-même quand il grandissait, était victime du favoritisme. Son père préférait qui, là? Ésaü. Et sa maman préférait Jacob. C'était le chouchou de maman, n'est-ce pas? Et Ésaü était le guerrier, il était le préféré de papa. Et toute la famille était rongée, puis on connaît bien l'histoire, toute la manigance de Rebecca, justement, pour tromper leur père, pour recevoir la bénédiction et tout ça, là. Donc, on voit que Joseph Jacob a beaucoup souffert à cause de ce favoritisme-là, au point de vivre une rupture profonde avec son propre frère Ésaü, puis de craindre pour sa propre vie, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire, là? Il envoie les 400 personnes, Ésaü s'en vient avec 400, personnes armées, là. Puis lui, il est là, tout à fait vulnérable devant eux, là. Qu'est-ce que Ésaü va faire, là? Et là, son combat avec l'ange, c'est une belle histoire, hein? Mais c'est une histoire qui fait trembler quand même, là. Mais Jacob, presque, avec sa tromperie, là, en donnant place au favoritisme, il est presque connu un désastre sur le plan familial. Mais pourtant, Jacob refait la même chose avec ses propres enfants. On appelle ça le péché générationnel. Tel père, tel fils, hein? Et tel petit-fils aussi, comme on voit. Mais ce péché générationnel-là, ça nous affecte dans nos familles aussi, n'est-ce pas? Je sais que dans ma famille à moi, côté de mon père, vient d'une grande famille. Il a 6 frères et 6 sœurs, imaginez-vous, là. Donc, mon père est un enfant de 13, là, 13 enfants. Et justement, dans la famille de mon père, justement, il y avait beaucoup de brisements dans la famille de mon père. Et je vous en parlerai un peu plus, là, surtout d'un de mes oncles qui était vraiment un désastre. Mais on voit que ce qu'on vit sur le plan, parce qu'un des problèmes avec les oncles de mon père, mes oncles à moi, et la famille Watley, c'est qu'on ne pouvait pas prendre de décision, là. C'est comme si notre volonté était paralysée. Donc, mon grand-père n'a jamais pu prendre une bonne décision. Tous mes oncles étaient comme paralysés. C'était des hommes qui n'arrivaient jamais à accomplir rien dans leur vie. Et mon père a brisé le cercle un peu de familial, puis il a quand même épousé ma mère et a bâti une famille. Mais c'est le seul de ses six frères, qui a réussi à briser le cercle. Mais pourtant, la paralysie de sa volonté était là. Donc, comment prendre une bonne décision, là? Puis moi-même, je lutte avec ça. Comment m'affirmer puis prendre des bonnes décisions? Donc, on voit que l'héritage négatif de nos pères et de nos grands-parents, des fois, nous touche aussi, n'est-ce pas? Donc, il y a le péché, ce qu'on appelle le péché générationnel. On a aussi le troisième point, on voit ici, dans les vies de Joseph, c'était justement la famille, l'envie et la haine de la part de ses frères. Et je pense que ma voix va peut-être, aller jusqu'à 8h45, là, donc il faut que j'arrête avant ça. Donc, l'envie et la haine de la part de ses frères. Donc, c'était le point central dans ce passé familial, là, brisé de Joseph, c'était l'envie et la haine. Donc, la colère, une citation de Grégoire le Grand ici, la colère et le ressentiment qui fait souffrir l'humanité est enraciné souvent dans un sentiment de manque et de honte. Ceux qui expérimentent ce genre de honte ont tendance à se sentir en colère avec les gens qui possèdent ce qu'ils désirent avoir. On appelle ça l'envie. Tu veux posséder ce que tu désires avoir quelque chose, et si quelqu'un d'autre a ce que tu veux avoir, c'est pas forcément que tu veux prendre ce que l'autre a, mais tu as ce sentiment-là aussi de haine envers celui qui a ce que tu veux. Et même si tu ne peux pas avoir ce qu'il a, tu prends tellement cette personne en haine que tu veux le faire souffrir. À cause de ce qu'il a. Voir ce qu'il a te fait souffrir, te donne une profonde tristesse de voir quelqu'un d'autre profiter de quelque chose que toi, tu veux avoir. On appelle ça l'envie. Et tu expérimentes une profonde tristesse avec le succès et les bénédictions de l'autre. Mais c'est grave, ça. Mais vous savez que dans les cours familiales, lorsque le divorce est là, on voit souvent l'envie, n'est-ce pas? Donc, un des couples, soit le mari ou la femme, peut-être ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent, mais ils vont s'assurer que l'autre ne l'est pas non plus, là, tu sais. Peut-être que je n'aurai pas ça, là, mais tu vas voir, là, tu ne l'auras pas non plus, là, tu sais. C'est ce qu'on appelle l'envie. Et ça fait souffrir tant l'humanité. Et même, quand on pense même au terrorisme, c'est quoi le terrorisme? Qu'est-ce que le terroriste va gagner, lui, là? Il ne va rien gagner, là. Tout ce qu'il va faire, c'est de faire souffrir l'autre. Et je pense que c'est, on voit jusqu'à quel point l'envie alimente cette souffrance dans l'humanité. Puis on voit ça dans les frères aussi. Ils ne pouvaient pas gagner l'amour de leur père, mais ils veulent faire souffrir Joseph à cause qu'il a l'amour de leur père. C'est grave, hein? Mais on voit, ça c'est le voilà où aboutit l'envie. Prochain dépôt. Le traumatisme et rejet des violences et des trahisons. Donc, ce traumatisme-là, on le voit, peut-être quelqu'un, je vais demander, pour sauver ma voix un peu, on va lire, je pense qu'on a 4 diapos là, quelqu'un va lire le texte pour nous, là, s'il vous plaît.
Si vous...
Okay, juste une petite seconde là. Moi, je trouve cette phrase-là quand même intéressante là. Il s'assure pour manger là. C'est le bon moment d'avoir un bon repas ensemble là. Mais incroyable. En tout cas, on continue là. Et justement, on voit justement l'histoire de ce traumatisme qu'ils ont vécu. Et je ne sais pas comment ils ont mangé leur repas avec Joseph qui criait dans le puits, là, dans la citerne. Là. Mais on voit jusqu'à quel point ils étaient rendus loin dans leur haine envers lui. Donc on voit cette rupture et ces longues années de solitude et d'affliction. Le prochain diapo. Donc, continue jusqu'en bas. Donc, la rupture des longues années de solitude et d'affliction. Donc, on peut voir ces différents points dans nos vies à nous. Peut-être vous constatez une certaine parallèle à différents niveaux. Peut-être vous avez vécu dans un contexte familial où il y avait certains péchés générationnels qui vous ont affecté. Peut-être il y avait de l'envie, de la haine dans le contexte familial. Peut-être même certains parmi vous, vous avez connu des traumatismes, de la violence. Peut-être même vous avez connu des ruptures profondes avec vos êtres chers, avec vos parents, avec un membre de la famille, avec une sœur ou un frère. Donc peut-être vous vous identifiez là à certains de ce, de ce, de ce, de ce bagage que Joseph devait porter avec lui jusqu'en Égypte. Mais ce qu'on voit avec Joseph, et ce qu'on voit aussi avec ses frères, que ces expériences-là ont eu un impact sur eux. Donc, regardons un peu l'impact sur les frères. Donc, Genèse 42. Donc, quelqu'un d'autre aussi va lire. Vous faites bien, là. Quelqu'un d'autre, un nouveau lecteur, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que ces versets nous révèlent? Ça nous révèle un peu la souffrance que vivaient les frères de Joseph pendant 17 ans. Ils avaient posé ce geste-là, ils avaient trompé leur père, et ils devaient porter ce poids de culpabilité-là et de reproche-là, mutuel, les uns aux autres. Ruben, là, qui voulait sauver Joseph, là, il dit... Combien de fois il a dit pendant les 17 ans, là, je vous ai dit, là. Donc, il a gardé cette rancune envers ses frères toutes ces années-là. Mais quel fardeau l'a porté ses frères à Joseph, n'est-ce pas, pendant tant d'années, là. Eux, ils n'avaient pas pris le chemin de restauration. Ils étaient encore complètement, là, prisonniers de leur culpabilité et de leur haine. Et on voit ça, mais Joseph a pris un autre chemin. Et on voit, vraiment c'est intéressant, chapitre 41, la prochaine diapo, il appela son premier-né Manassé, celui qui fait oublier, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. Il donna au second enfant le nom Éphraïm, fécond, car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ces versets-là? On voit le chemin que Joseph a pris, là. Et c'est vraiment intéressant aussi que la naissance de ses enfants était la couronne de sa guérison. Mais la restauration avec ses frères a aidé aussi, là. Mais la couronne de sa guérison personnel était la naissance de ses enfants. Puis, qu'est-ce qu'il dit là? Dieu m'a fait oublier. Ça ne veut pas dire qu'il a enterré là ses souvenirs. Mais Dieu a enlevé le poids de cette souffrance-là. Et le deuxième enfant, tu m'as rendu fécond. Donc, moi, c'était des années de sécheresse, des années de privation. Et maintenant, c'est l'abondance qui vient. Incroyable, hein? Donc, on voit que le fait d'avoir été béni avec ces deux enfants-là était un baume de guérison sur, justement, le cœur de Joseph. Et je vous dis, tu as vu mon fils et ma belle-fille là, avec leurs enfants, là, avec leurs petits garçons, leurs bras, là. Ça, c'est un baume de guérison, là. La touche, là. Dieu, c'est comme si Dieu complète sa restauration dans leur vie. En tout cas, c'est puissant. Donc, Joseph restauré, un autre signe de cette restauration-là. Quelqu'un d'autre va lire pour nous, s'il vous plaît. Je pense que c'est le avant, là. Je suis Joseph. OK. Continue. Le prochain diapo. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre que j'ai eu votre vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il
m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa peau et le dirigeant de toute l'Égypte.
Donc, juste retourner au diapo précédent. Donc, il dit, et maintenant, verset 5, « Ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. » Donc, ça, c'est un signe de guérison qu'il s'inquiète de ses frères maintenant et de leur réaction, là. Il est tellement libéré dans son cœur qu'il est soucieux de ceux qui l'ont jeté dans le puits, là. C'est quelque chose, hein? Donc, on voit à quel point Joseph avait vécu cette libération dans son cœur par rapport à ses frères. Et même la prochaine diapo, il dit, Dieu avait un plan de sauvetage. Dieu était derrière ce geste-là. Ce n'était pas un bon geste, là. Mais Dieu a été souverain sur le geste que vous avez posé, là. Donc, Joseph avait pris ce chemin de libération-là. Il avait de longues années pour remémorer ce qui lui est arrivé, n'est-ce pas? Il aurait pu prendre le chemin de l'amertume et de cultiver l'amertume. Hein? Parce que je connais des gens qui ont cultivé l'amertume pendant plus que 17 ans. Là. Il y en a qui cultivent ça pendant une trentaine d'années, là, cinquantaine d'années. Je sais que mon voisin qui habitait en face de chez moi, quand j'habitais à Gatineau, je lui ai parlé de sa famille et tout ça. « Ah oh, oui, j'ai un fils, là », il m'a dit. Mais je n'ai pas parlé avec lui depuis 25 ans. Et j'ai dit, depuis 25 ans, tu n'as pas parlé avec ton fils? Puis là, il m'a dit, il sait où j'habite. Mais je lui ai demandé, mais est-ce que tu sais où il habite? Dépêche-toi là. Va voir ton fils. Mais on voit jusqu'à quel point l'amertume peut ronger le cœur des êtres humains. C'est incroyable. La capacité pour l'amertume est extraordinaire. C'est triste dans l'être humain, mais on voit que Joseph a pris tout un autre chemin par rapport à l'amertume. C'est pas juste qu'il a pris un chemin de restauration, mais il a dit, « Seigneur, où étais-tu dans tout ça? Pourquoi tu as permis tout ça? » Sans doute, il a passé par ces questions-là, et c'est important qu'on regarde ces questions-là, puis il dit, Seigneur, où étais-tu? Puis peut-être on ne verrait pas la présence de Dieu, le pourquoi de Dieu. Je pense que ça a pris beaucoup d'années avant que Joseph voie vraiment ce que Dieu faisait dans tout ça. Et justement, pendant ces années-là de doute et de confusion, il fallait quand même qu'il ait cette confiance en Dieu, qu'il prenne tout de même ce chemin-là de confiance en Dieu. Que Dieu allait quand même accomplir quelque chose avec ces expériences néfastes qu'il avait vécues là. Et nous aussi, peut-être vous faites un bilan de votre passé, vous voyez les choses qui sont arrivées, qui sont injustes, qui vous ont blessé, qui vous ont marqué profondément. Et Seigneur, où étais-tu? Pourquoi tu as permis telle chose dans ma vie à moi? Et peut-être vous n'avez pas de réponse encore. Encore. Mais Dieu est avec vous là. Et Dieu a quelque chose qu'il va accomplir avec ce que vous avez vécu là. Je ne peux pas dire c'est quoi. Peut-être que ça va prendre encore des années pour découvrir le plan de Dieu. Mais il a quand même quelque chose qu'il est en train de faire dans votre vie. Donc l'important, c'est de garder ton cœur tendre et de vouloir toujours prendre le chemin de restauration avec ce que vous avez vécu. Ne pas prendre le chemin d'amertume et de culpabilité que les frères ont pris, justement. Donc le chemin de guérison. Prochaine diapo, là. Ta douleur est si profonde, il ne partira pas comme cela. C'est ta douleur, car elle est enracinée dans tes expériences d'enfance. Ton appel est de trouver un foyer pour cette douleur. To bring home your pain, c'est ma traduction à moi, là. Aussi longtemps que ta douleur est aliénée de ta vie d'adulte, cette douleur va te faire mal. Non seulement à toi, mais aux autres aussi. Si la souffrance n'est pas transformée, elle sera transmise. C'est fort, hein? Si la souffrance n'est pas transformée, elle sera transmise. Donc, ma conviction, si nous allons discerner l'appel de Dieu sur notre vie, entrer pleinement dans le projet de Dieu pour notre vie, il faut premièrement conjuguer avec cette souffrance, avec cette douleur que nous avons vécue jusqu'à là. Peut-être que c'est la souffrance que d'autres ont causée dans votre vie. Peut-être c'est la souffrance que vous avez causée à vous-même, là, avec vos propres choix, avec vos mauvaises décisions. Mais il faut conjuguer avec ça. Il faut prendre cette souffrance-là et dire, « Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? » Si je vais enterrer la souffrance et faire semblant que si elle n'était pas là, encore comme l'image de comme le feu dans le soubassement, là, dans le cave, là, comme on dit au Québec, là, ça ne marchera pas là. Il faut conjuguer avec, il faut affronter la souffrance. Et pour faire un foyer de cette souffrance, là, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec là? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? De quoi est-ce que j'ai besoin dans mon cœur par rapport à ce que j'ai vécu? Dans mon passé. Donc, je veux vous partager justement un chemin pratique pour ça. Donc, je ne veux pas vous laisser uniquement dans l'idéal, peut-être, ou dans le théorique avec cela. Mais, justement, il y a un chemin que Dieu nous propose. Et ce n'est pas un chemin qui est très compliqué. Moi, je pense que Jésus même nous parle de ce chemin-là dans son enseignement, puis je vous laisse le verset ici. C'est un verset que je trouve un genre de modèle pour nous, qui décrit pour nous le chemin de restauration que Jésus veut que nous prenions. Et ce chemin-là, on le découvre dans ce verset. Quelqu'un veut lire le verset pour nous, s'il vous plaît? Donc, la façon assurée là, de ne pas prendre le chemin de restauration est d'endurcir ton cœur et de fermer tes oreilles. Donc, si tu endurcis ton cœur ou si tu fermes tes oreilles, fermes tes yeux, si tu fais semblant que n'a rien là, vous êtes assuré de ne jamais prendre le chemin de restauration. Et il décrit finalement ces pauvres gens qui ont eu le cœur insensible, le cœur endurci, ils se sont privés du chemin de guérison. Mais Jésus décrit pour nous quel est ce chemin de guérison-là, puis il parle justement des cinq étapes. La première, c'est de voir avec mes yeux, entendre avec mes oreilles, comprendre dans mon cœur, me repentir ou me convertir, et expérimenter la guérison. Donc, c'est un passage que Jésus dit, mais voilà que les gens avec le cœur endurci, un peu comme les frères dans l'histoire de Joseph, ils se sont privés de ce chemin-là, hein, avec l'endurcissement de leur cœur. Ils n'ont pas donné place, ils n'ont pas osé mettre leurs pieds dans ce chemin de restauration-là. Mais Dieu nous invite à prendre ce chemin-là dans nos propres vies à nous. Puis je vais juste toucher les points ne prendra pas beaucoup de temps parce que la journée a été longue, la soirée est longue. Et moi, je suis fatigué, peut-être plus que vous-même. Mais la première, c'est vraiment de voir avec mes yeux. Donc, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Donc, voir avec mes yeux, c'est vraiment la première étape. Et moi, on peut voir ça comme l'étape diagnostique, là, j'arrête de fermer mes yeux là, sur ce que j'ai vécu là. J'ouvre mes yeux sur ce que j'ai vécu là. Je revisite les expériences de mon passé, les paroles qui m'ont blessé, les gestes qui m'ont touché, peut-être même certains traumatismes que j'aurais vécu là. Et c'est justement, c'est plusieurs des expériences qu'on a vécues jeunes, ces expériences-là sont porteuses de signification pour nous. Ils nous ont marqués d'une certaine façon. Et ce n'est pas très compliqué, mais vous avez juste à penser aux expériences dont le souvenir est encore vif, là, de votre enfance, là. Et probablement, ce sont des expériences significatives pour vous, là, qu'il faut revisiter dans ce cheminement de restauration. Et moi, une discipline que j'ai entreprise, qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai pris du temps pour revisiter ces expériences-là, mais en écrivant ce que j'ai vécu là. Toujours dans une astuce de prière, il demande au Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Je dis, je me souviens de cette expérience-là, et souvent le souvenir de cette expérience-là va toujours avoir une dimension corporelle là. Les psychologues disent que comment savoir si tel souvenir est véritable ou non? Ils disent que souvent, le signe, c'est que si tu as un souvenir ou une mémoire corporelle, peut-être tu te souviens d'une sensation quelconque que tu as vécue. Là. Peut-être tu te souviens de... Moi, je sais que j'avais avec mon oncle qui était dans notre vie quand j'étais ado. Là, il m'a amené avec lui une fois. Faire du foin, là. Tu sais, dans les champs, dans l'Ouest canadien, là, on fait souvent du foin, là. Puis, quand on empilait les bottins de foin, il fallait qu'ils me traînent derrière l'instrument, là, qui fabriquait des bottins, là, tu sais. Donc, j'étais là en train de il me traînait sur le champ avec lui, là. Puis, plus la soirée avançait, plus les bottins de foin étaient lourds, là, tu sais. Puis, il fallait que je les empile derrière moi. Puis, quand j'avais une pile d'une dizaine de bottins de foin, puis je les laissais sur le champ, là. C'était un peu comme ça. Mais là, il allait de plus en plus vite, puis ça devenait de plus en plus dangereux. Puis tout d'un coup, ce qui est arrivé, il a frappé un trou, là. Puis là, j'ai tombé. Toutes les balles de foin ont tombé aussi, là. Et j'ai tombé sur le dos, là, sur un des tuyaux de métal, là. Et j'étais là, en profonde douleur, couché dans le champ, là. Mais je me souviens de la paille qui me perçait dans le dos, là. Et je me souviens de l'humidité de la terre. Je me souviens de la senteur. C'était une expérience véritable, là. C'était pas de la foutaise, mon affaire, là. Et là, j'étais tellement là, sous l'emprise de mon oncle, que je me suis levé. Et je me suis mis à courir vers lui, là, parce que lui, il ne me regardait même pas. Il était rendu encore plus loin, là, il était tellement possédé par son affaire, là. Et je criais, je pleurais, j'avais mal, là, je pleurais, je dis, « I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. » Mais quelle réponse ridicule! Pourquoi je demandais pardon, là? Parce que cet homme-là est un homme abusif, là. Et les hommes, les personnes abusives dans notre passé, ils mettent la responsabilité sur nous. Ils nous font sentir le victime. C'est eux, le monstre, puis ils mettent le blâme sur nous, là. Ça, c'est des relations abusives, là. Et si vous avez eu des relations comme ça dans votre vie, vous avez un travail à faire au niveau de restauration, au niveau du pardon. Mais en tout cas, c'est juste un petit exemple de voir avec mes yeux. Mais il fallait que... Moi, j'ai revisité ces expériences-là avec mon oncle, pas avec lui, là, mais en écrivant, puis en demandant au Seigneur, justement, de me libérer de ces traumatismes-là, qui n'étaient pas si graves que ça. Puis j'ai souvent remercié le Seigneur que cet homme-là n'était pas mon père. Mais si cet homme-là avait été mon père, ça aurait été une catastrophe, ma vie. Parce que mon père m'aimait, mon père était là pour moi, mais cet oncle-là était un monstre. Mais justement, on a besoin de voir avec nos yeux, mais Seigneur, qu'est-ce que ça m'a fait de vivre dans un contexte comme ça, là? D'entendre des paroles comme ça, peut-être d'abaissement ou d'humiliation, là? Qu'est-ce que ça m'a fait, là, à moi, en tant qu'enfant, là, de vivre ça? Je sais que mon épouse à moi, sa famille était quand même en assez bonne santé, mais sa mère ne croyait pas en elle. Et sa mère lui disait toujours, là, parce que mon épouse voulait vraiment prendre des cours de piano, là, tu sais. Et puis elle avait un grand talent musical. Mais sa mère lui disait toujours, là, « You're a quitter. » Ça veut dire que tu es un lâche, tu vas rien terminer, là, tu sais. Mais tu sais, là, mon épouse a lutté avec ça toute sa vie, là. C'est comme si cette parole-là l'a hanté toute sa vie, cette parole-là. Puis au point de la paralyser au niveau, elle commence à quelque chose, puis c'est comme si elle était toujours piégée pour la compléter. Et peut-être nous aussi, dans notre vie, on a vécu des choses comme ça, des paroles comme ça, qui nous ont abaissés. Puis on est comme, on porte encore le poids de ces paroles-là, tu sais. C'est comme si ça traîne, là, tu sais, le poids est toujours là, tu sais, oh, c'est lourd, là. Puis on n'arrive pas à se débarrasser de ce poids-là. Mais voilà un peu, voir avec mes yeux, c'est de dire, mais voilà, Seigneur, ça qui m'est arrivé dans ma vie, là. Puis je veux plus cacher ça, je veux voir ce qui m'est arrivé, je veux ressentir ce qui m'est arrivé, là, afin d'en être libéré. Mais la deuxième chose, entendre avec mes oreilles, là. Mais ça, c'est la prochaine étape dans le chemin de guérison, de restauration. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on a, dans ces expériences-là, on a entendu des mensonges, souvent, qui se sont implantés dans nos cœurs, tu sais, dans notre tête, là. Des paroles peut-être blessantes, des paroles de moquerie, peut-être. Puis ces paroles nous hantent dans notre cœur. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut nous amener à entendre autre chose que cela. Donc, entendre avec mes oreilles, je me mets à écouter Dieu, là. Seigneur, qu'est-ce que toi, tu me dis? Moi, j'ai entendu ça, j'ai ressenti ça, mais qu'est-ce que toi, tu me dis? Qu'est-ce que toi, tu as comme parole de vie? J'ai entendu des paroles de mort et d'abaissement, de jugement, de moquerie, mais quelle est ta parole pour moi? Maintenant. Et quand tu revisites ces expériences-là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que toi tu vas me dire là-dedans? J'ai besoin d'entendre ta parole de vie, parce que j'ai entendu seulement des paroles de mort et de souffrance, mais je veux entendre ta parole de vie. Je pense à Joseph, là, avec les paroles de moquerie puis de haine de la part de ses frères, là. Il avait besoin d'entendre la parole de l'amour de Dieu pour lui. Il a la confiance de Dieu en lui. Donc, nous aussi, on a besoin d'entendre avec nos oreilles. Le troisième, comprendre dans nos cœurs. Ça, c'est le moment de révélation. Où ce que la blessure que j'ai vécue et la parole de Dieu se rencontrent dans mon cœur. Et je peux vivre la guérison, je peux vivre une restauration. Parce qu'il y a un moment d'épiphanie où Dieu me parle, où je commence à comprendre quelque chose de cette expérience-là. Pourquoi Dieu a permis ça? Et je commence à voir la main de Dieu à travers ces expériences-là. Il y a quelque chose que je comprends dans mon cœur. Il y a une paix qui s'installe dans mon cœur par rapport à ce que j'ai vécu. Ça, c'est vraiment le comprendre dans mon cœur. Mais c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de révélation de Dieu dans mon cœur. Qu'il ne se convertisse ou que le repentir ou le me convertir. Et ça, c'est vraiment l'idée de comment j'ai été complice avec ce qui m'est arrivé. T'sais. Et moi, je dirais, moi, j'ai alimenté beaucoup d'amertume envers mon oncle. Hein, parce que j'étais ado pendant que c'est arrivé. Là. Puis vous savez que les adolescents, là, ils sont capables de dire des choses aussi. Hein. Puis moi, j'avais sorti des choses là, pour blesser mon oncle. T'sais. Lui, là, il me parlait, là, puis il avait une langue sale. Là. Ah, une langue sale incroyable. Là. Puis encore ces blasphèmes-là, ça me revient à l'esprit facilement. Mais moi, j'étais capable aussi, tu sais, de lui dire des choses. Pas des blasphèmes, mais des paroles pour le blesser lui aussi. Et même la façon que j'ai alimenté l'amertume envers lui, là, c'était ma complicité, là. C'était une forme de complicité. Puis il fallait que je me repente de ça. Pour vivre une pleine restauration, il fallait conjuguer avec ma propre complicité avec ce qui m'est arrivé aussi. Donc ça, c'est important, ça. Et parce que si, peut-être, même le fait de donner place ou de croire à ces mensonges-là qui m'ont été racontés, là, il faut renoncer à ces mensonges. Et ma complicité a été dans la façon que j'ai gobé ces choses-là, j'ai donné place à ces mensonges-là dans ma vie. Là. Et je dis, non, Seigneur, je renonce à ça, c'est pas vrai. Et je demande pardon d'avoir gardé ce mensonge dans mon cœur pendant tant d'années, là. Et libère-moi, Seigneur. Donc, ça, c'est la dimension de repentance et de conversion. Et finalement, la guérison. l'étape finale de ce processus quand Dieu met son baume sur ça, là, tu sais. Mon oncle, cet oncle en question, là, il est décédé il y a 4 mois. Et malheureusement, c'est un homme, à notre connaissance, qui ne s'est jamais repenti de sa vie, de sa folie, de ses gestes qui ont blessé tant de gens. Mais je sais que j'aurai un jour, là, quand je rentre chez moi, au mois de mai, là, je vais aller au cimetière et je vais pleurer sur son tombeau, là, je sais. Parce que cet homme-là avait tant besoin là, de guérison dans sa vie, il avait tant besoin de libération de sa vie, là. Il était tellement prisonnier, là, de sa folie, là. Il a fait tant souffrir les autres, mais oh, Seigneur, qu'il aurait pu connaître la guérison venant de toi. C'est ça ma prière pour lui. Ça a été ma prière pour lui. Donc, la guérison pour Joseph, on voit ça ici dans le verset 45, là. Chapitre 45, verset 14. Puis il se jeta au cou de Benjamin, son frère. Et tous deux pleurèrent sur les épaules l'un de l'autre. Ensuite, il embrassa tous ses frères en pleurant. Après quoi, les frères s'entretenirent avec lui. Ça, c'est la guérison, ça. Ça, c'est la guérison, là. Où tu peux prendre dans tes bras celui qui t'a blessé, là, et pleurer sur son épaule. Ça, c'est la guérison. Ça, c'est la restauration, là. Et peut-être vous êtes loin de ça dans vos vies. Hein. Peut-être vous pensez, peut-être vous avez chacun de vous, peut-être aussi plusieurs parmi vous, une personne en vue là, qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Là. Et vous ne pouvez même pas imaginer le jour où vous pouvez pleurer sur l'épaule de cette personne-là. Mais je vous dis, notre Dieu est un Dieu puissant, un Dieu qui guérit, qui peut même restaurer cette relation-là. Amen. Amen.